continue tout de suite la suite d'International.
Deuxième partie d'International avec notre invité, le commissaire européen au commerce, Karel de Gucht. Alors, on parlait de l'accord de libre-échange, enfin, futur accord de libre-échange avec les États-Unis. Monsieur le commissaire, ce futur accord de libre-échange Europe-États-Unis concerne 40% du commerce mondial, donc c'est quelque chose d'important. Les optimistes, on a vu le président Barack Obama dans le sujet tout à l'heure, disent que ça devrait doper la croissance européenne et américaine. Est-ce que vous y croyez aussi? Ça va doper la croissance? Vous faites partie de ces optimistes?
Mais c'est pourquoi nous sommes tellement intéressés par... ce possible accord, l'autoroute de commerce, l'autoroute mondiale, c'est entre les États-Unis et l'Europe. Plus que 2 milliards d'euros par jour, chaque jour. Hein. Il y a en France même, dans les deux directions, en France, 500 000 Français travaillent dans des succursales américaines. Nous avons des rapports très pesé, hein, que ça contribuerait jusqu'à 0,5% à notre produit européen.
Oui, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est bien en période de crise, mais ce qui n'est pas énorme.
C'est énorme, parce que ça créerait quand même 2 millions de jobs supplémentaires. Mm-hmm. Hein. Et puis, il y a cet élément... Moi, je dis toujours qu'il y a, d'après moi, trois conséquences de ça. Un, le fait qu'on commence cela. Que les deux grands blocs, les plus grands blocs économiques commencent une négociation entre eux. En quoi, en soi, c'est déjà un boost pour l'économie.
Ouais.
Ça, ce qui nous manque dans l'économie, c'est la confiance. Mm-hmm. Ça donne la confiance.
Mm-hmm.
Ouais. Puis, il y a donc l'effet, disons, à moyen terme, et ça peut aller jusqu'à 0,5% du produit européen, mais aussi l'importance à long terme. Mais le long terme commence maintenant. Mm-hmm. C'est notre place sur la scène mondiale. L'idée est de rapprocher nos réglementations, nos normes, nos standards. Si cela se fait dans cet vaste environnement économique, la chance que nos normes, nos standards, nos réglementations deviennent aussi les normes, standards et réglementations au niveau mondial.
C'est important ce que vous dites, parce que est-ce que ce sont les normes européennes qui vont s'imposer au niveau mondial, ou bien est-ce que ce sont les normes américaines qui vont s'opposer aux Européens et donc au monde entier?
Il n'y a aucune raison que les normes américaines seraient imposées à nous. Donc l'idée est de voir dans quelle mesure on sait harmoniser les normes existantes, les rendre compatibles, mais surtout pour l'avenir, comment développer ensemble des normes et standards.
Mais c'est ça d'ailleurs, la négociation va surtout être une sorte de négociation sur les normes plus que sur les tarifs, puisque les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis sont à un niveau très bas maintenant, je crois que c'est aux alentours de 3%. Il y a beaucoup de sujets de confrontation néanmoins sur les normes sanitaires, les OGM, les marchés publics, l'agriculture. Combien de temps ça va prendre, ces négociations? Les optimistes disent 12 mois, certains disent un an et demi, deux ans peut-être. Vous souhaitez que ça aboutisse à quel moment?
Tout d'abord, vous dites que les tarifs sont bas, c'est vrai, mais quand même, sont à peu près entre 4 et 5 %.
Okay.
Mais un produit fait parfois des va-et-vient, hein, donc, et puis les tarifs s'ajoutent, hein, donc c'est quand même important. Et vu la masse de notre commerce, ça donnerait quand même une impulsion de plus de 30 milliards d'euros, hein, donc c'est pas négligeable du tout, hein. Mais ceci dit, combien de temps ça va prendre? Mais je ne suis pas Madame Blanche, hein, mais quand on dit voilà, ça va nous aider pour sortir de la crise, alors il faut pas discuter et négocier pendant 5 ans non plus, hein, non? Alors il faut essayer d'aller vite.
Hein. Ce serait quoi la bonne durée pour avoir vu l'ampleur des sujets à négocier? Est-ce que 2 ans ce serait une durée satisfaisante, on va dire?
C'est ce que me disent les Américains. Les Américains disent, mon interlocuteur, donc disons ma contrepartie, Mike Froman, donc le US Trade Representative, dit we have to do this on one tank of gas. Hein, donc, mais naturellement, le prix du gaz a diminué beaucoup aux États-Unis, donc on peut quand même.
Il dit le temps d'un plein.
C'est un plein, et puis on peut
ça
rouler.
Ça dépend de la grosseur de la voiture.
Puis on peut rouler plus longuement, mais je ne sais pas. Seulement, mon plan de bataille, le plan de bataille de la
Commission. Vous aimeriez que ce soit fait avant la fin de votre mandat, bien sûr.
Et le plan de bataille, oui, enfin, bien sûr, enfin, on verra. Mais mon plan de bataille est de le faire avant la fin de ce mandat, parce qu'alors ça contribuerait vraiment à la résolution de la crise. Et c'est
avant,
ça l'idée.
Ça veut dire avant mai 2014, c'est très très vite.
Non, mon mandat court jusqu'à la fin de 2014. Hein,
d'accord. Donc, Juste sur les enjeux géostratégiques d'un tel accord, vous disiez que c'est une façon pour les Américains et les Européens de se rassembler, notamment pour continuer à dicter certaines normes d'un point de vue commercial, notamment face aux pays émergents. Certains d'ailleurs utilisent l'expression de OTAN économique pour désigner cet accord. Pour vous, cette expression OTAN économique, c'est un compliment ou plutôt une insulte ? Parce que ça peut paraître assez défensif vis-à-vis des pays émergents, vis-à-vis de la Chine. Ça peut même avoir peut-être des inconvénients vis-à-vis des relations avec la Chine, dont on parlera plus tard.
Moi, j'aime pas tellement la comparaison avec l'OTAN, parce que c'est une négociation entre égaux, hein, que j'ai en tête. Et c'est aussi une négociation qui n'est pas dirigée contre quelqu'un. Non. Mais ceci dit, nous devons quand même nous défendre dans la globalisation et sur la scène mondiale. Laisse-moi vous donner un exemple. Dans l'automobile, si on veut investir en Chine dans le secteur automobile classique, donc le secteur à combustion, il faut aussi investir dans les voitures électriques. Et le résultat de cet investissement dans le secteur électrique doit être une marque chinoise. Bon, ça m'arrange pas tellement, et j'imagine que ça n'arrange pas tellement la France non plus. Ce que moi je veux, c'est que, bon, on peut naturellement faire des investissements dans les deux directions, mais on reste maître de sa propriété intellectuelle. C'est de quoi qu'il s'agit. Et je pense que c'est mieux de le faire ensemble, que nous avons une meilleure chance, je ne dis pas de nous imposer, mais de nous faire respecter si on le fait ensemble. C'est de quoi
mais qu'il s'agit. Est-ce que ce n'est pas le poids grandissant et très vite de la Chine qui a poussé à la volonté de vouloir conclure cet accord entre Européens et Américains? Vous dites qu'il ne faut pas être hostile, ce n'est pas une idée d'hostilité, mais c'est pour faire au moins contrepoids à la Chine.
Ça a contribué dans une certaine mesure. C'est aussi parce que dernièrement, donc les deux, trois dernières années, nous avons travaillé beaucoup avec les Américains sur certaines normes et standards, sur des procédures de reconnaissance mutuelle, par exemple pour les contrôles des conteneurs, ce qui est donc ça peut être une teneur technique, mais c'est très important, hein, donc
pour le transport.
Donc ça s'applique à 4500 sociétés européennes. Donc quand on contrôle un conteneur à Le Havre par exemple, ça vaut aussi à Houston, hein, donc on a travaillé bien ensemble. Mais je pense que certainement du côté américain, ça, oui, donc le jeu géostratégique y est pour quelque chose, bien que c'est vrai que la Chine a une croissance vraiment remarquable. Ceci dit, l'économie européenne, c'est toujours plus grand que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud ensemble, hein, donc
les économies partent de beaucoup plus loin.
Nous sommes la plus grande. On ne le dit pas suffisamment, mais l'Union européenne, c'est l'économie la plus grande au monde. Hein.
Oui. Monsieur le Commissaire, encore quand même, pour revenir sur cet accord de libre-échange avec les États-Unis, est-ce que l'agriculture devrait être exclue ou pas? Parce que on sait que les Américains voudraient que les Européens ouvrent leur marché, par exemple aux OGM, aussi à la viande, aux hormones. Ce sont des choses qui font peur en Europe, en tout cas dans certains pays, même si les législations varient d'un pays à l'autre. En tout cas, de manière générale, en Europe, on refuse plutôt ces importations. Est-ce que l'agriculture européenne n'a pas justement une carte à jouer, une agriculture plus naturelle, plus respectueuse de la nature que ce qu'est l'agriculture américaine?
Mais monsieur, s'il y aurait un accord, il ne comportera jamais que les Américains puissent exporter le bœuf aux hormones sur le marché européen. Jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure l'agriculture.
Vous en êtes sûr de ça?
Ah oui, naturellement, enfin.
Je ne sais pas, les négociations débutent, mais vous savez que ça, ce sera niette d'office.
Là, il y a des garanties dans le mandat, justement, que vous avez obtenu le vendredi.
Il ne faut pas des garanties dans le mandat. On va discuter de l'agriculture.
Mais vous êtes sûr que vous allez dire non à
l'agriculture de l'Europe, mais les OGM.
Mais, le résultat d'une telle négociation, ça doit être adopté par quelqu'un, non? Ça doit être adopté par le Conseil, ça doit être adopté par le Parlement européen. Moi, je ne peux pas m'imaginer, d'ailleurs moi aussi, je serais contre, que jamais... Donc le Parlement ou le Conseil serait d'accord là-dessus. Enfin, donc,
ça va être un point difficile de négociation.
Mais ce n'est pas un point difficile de négociation. Ce n'est pas parce qu'on est prêt à négocier un dossier qu'on n'a pas de ligne rouge. Non, d'accord. On a aussi des lignes rouges, enfin, on ne va pas en revenir sur l'audiovisuel. Mais c'est vrai, c'est clair qu'on va donc discuter l'agriculture. Mais une ligne rouge, c'est par exemple l'exportation de bœuf aux hormones sur le marché européen. Et là, ce sera non. Et ça restera non.
Très bien.
Les OGM, c'est aussi clair ou...
Oui, c'est aussi clair, mais c'est différent. On ne peut pas tout mêler. Les OGM, là, il y a un cadre européen. Il y a des autorisations d'OGM, 49 au grand total, dont une mineure partie pour la consommation humaine. Mais il y a un système, donc ce système continuera à fonctionner. Et puis nous avons fait une nouvelle proposition sur la cultivation qui rend possible qu'un pays spécifique, par exemple l'Autriche ou la France, dise là, tel OGM ne peut pas être cultivé dans notre pays. Donc là aussi, il y a une législation européenne et on fera respecter la législation européenne.
Alors, on peut peut-être passer d'autres questions encore sur l'accord de libre-échange.
Peut-être le lien qu'on peut faire ou pas, je ne sais pas quel est votre avis, avec ce scandale lié à ce système de surveillance aux États-Unis, justement de fichiers personnels qui circulent sur les plateformes Internet, Google, etc. Pour vous, il doit y avoir un lien entre ce scandale, cette affaire, les préoccupations que les Européens ont exprimées à cette occasion, je ne sais pas si vous les partagez, et la négociation. Est-ce qu'il faut tout mélanger ou est-ce que pour vous, c'est deux sujets différents. Est-ce que vous voulez obtenir des garanties dans le cadre d'un accord de libre-échange avec les États-Unis sur l'utilisation de ces données, justement ?
C'est un sujet très sensible qu'il faudra donc discuter en profondeur. Je le ferai ensemble avec Viviane Reding, qui est donc responsable dans ce domaine. Et moi, je comprends tout à fait la sensibilité européenne sur la protection des données. Comment cela doit se traduire dans cet accord de libre-échange, c'est autre chose. Ça, on verra.
Pardon. Il faut peut-être rappeler que ce sont les services de renseignement américains donc, qui ont accès aux données, à certaines données privées qui sont dans les serveurs de Google, de Facebook, de YouTube. Et c'est ça qu'on a appelé l'affaire Prism et une technique qui a été approuvée par le président Obama. Donc voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer ça d'une manière ou d'une autre dans les négociations avec les États-Unis?
Monsieur, c'est la protection des données. On ne va pas intégrer un scandale, on va intégrer la protection des données. Donc c'est un sujet qu'il faut développer sur base de la législation européenne.
Comment protéger les données personnelles d'un accès de services secrets ou d'autres? Parfois ce sont même des privés qui collectent les informations, qui les revendent à d'autres. Enfin, il y a toute une législation à mettre en place.
C'est un problème qui ne se limite pas aux États-Unis.
Bien sûr.
Non? Nous aussi, vous aussi, se retrouvent dans des databases dont vous n'avez aucune idée. Vraiment aucune idée. Donc c'est un sujet très vaste et vous pouvez en être rassuré qu'on va traiter cela avec beaucoup de diligence et aussi beaucoup de, j'espère, de sagesse. Comment il faut régler cela, parce que moi aussi, personnellement, je trouve que la protection des données personnelles, c'est un atout et c'est quelque chose qu'on ne peut pas jeter comme ça. Donc je ne serais pas du tout d'accord là-dessus.
Donc ça fera partie des négociations avec les États-Unis.
Mais tout fera partie des négociations.
D'accord. Alors on va peut-être passer aux relations commerciales avec la Chine. On a déjà touché un mot tout à l'heure. Alors c'est pas encore vraiment le libre-échange dans les relations entre l'Europe et la Chine. Il y a beaucoup de barrières, beaucoup de taxes, beaucoup de protectionnisme, parfois de part et d'autre. C'était pas le cas en tout cas pour les panneaux solaires chinois qui ont inondé l'Europe à bas prix. Vous avez voulu mettre un peu le holà à cette invasion de panneaux solaires. Vous avez décidé de taxer les panneaux solaires chinois, environ 12% jusqu'au mois d'août, si j'ai bien compris, et puis 47% après, si on ne parvient pas à un accord avec les Chinois d'ici là. Alors, est-ce que c'est pas trop tard? Parce qu'on voit que 80% en fait du marché des panneaux solaires en Europe est aux mains des Chinois. Est-ce qu'il fallait pas réagir? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu réagir avant?
Ce sont des sociétés européennes qui ont déposé plainte il y a 9 mois. Et notamment, c'était pas seulement entre autres, mais vraiment, notamment des sociétés allemandes, hein, par ailleurs. Et puis, on a commencé donc l'investigation qui prend toujours 9 mois. Mm-hmm. C'est au bout des 9 mois qu'on peut prendre des mesures, enfin qu'il faut prendre des mesures provisoires. Et maintenant, nous sommes en négociation avec les Chinois pour trouver une solution à l'amiable, mais une solution à l'amiable qui, donc, résout le problème. Hein, donc, pas n'importe quoi.
Philippe Ricard, vous espérez une issue à ces négociations d'ici à combien de temps ? Il faut aller très vite pour vous ? Est-ce que vous avez le soutien de tous les États membres ? On a vu que l'Allemagne, notamment, avait critiqué vos propositions quand il s'est agi de sanctionner ces importations à prix dumping. Vous avez trouvé ça très loyal de la part de l'Allemagne, alors que vous êtes quand même celui qui est chargé, c'est votre job de faire ça.
Vous savez, comme vous le dites, moi j'ai... un job à faire, donc j'ai une responsabilité à prendre, et le collège, dans son unanimité, m'a soutenu dans cette prise de décision. Il est vrai que les États membres peuvent donner leur avis, ils l'ont fait. Il y a eu un certain nombre de pays membres qui étaient défavorables.
La majorité même, d'ailleurs.
Il y avait un certain nombre de pays. Vous savez très bien qu'il ne faut pas compter comme ça. Hein, donc, vous êtes trop instruit dans les institutions pour le dire. Hein, donc, ce sont des majorités pesées. Hein, donc, pas chaque État membre a le même nombre de voix. Mais enfin, il y a certainement eu pas mal de pays membres qui ont eu un avis défavorable. Maintenant, on verra ce que donnent les négociations. Et puis, ils devront décider à la fin de l'année sur base de notre proposition. C'est un processus. C'est une procédure.
D'autant plus que la Chine, en mesure de rétorsion, est en train de menacer éventuellement de taxer les vins européens et donc les vins français. Est-ce que ça veut dire qu'on
et
les voitures allemandes, est-ce que ça veut dire qu'on est au début d'une guerre commerciale, entre guillemets, avec la Chine, ou simplement on montre ses muscles parce que la négociation va commencer ?
Moi, je voudrais dire 2 choses. Un, les Chinois ont dit qu'ils vont lancer une enquête, sur l'éventuel subventionnement de vins européens. Mmh. Ils ont le droit de lancer une investigation. Ils ont ce droit, donc, sur base de l'OMC, des règles de l'OMC. Donc, voilà, c'est ce qu'ils font. Est-ce que c'est le début d'une guerre commerciale ? Je ne crois pas. Mmh. Certainement pas quand on sait tenir le sang-froid. Mais il faut maintenant me laisser le temps et la possibilité d'arriver à une négociation et à un résultat négocié avec les Chinois. Donc, je propose que maintenant, les États membres se taisent et quand ils disent quelque chose, qu'ils disent, voilà, maintenant, le commissaire a le droit et il a la tâche de négocier avec les Chinois et nous le soutenons. Ça serait meilleur de dire cela au lieu de me critiquer.
Ça, c'est une leçon de fonctionnement sur les institutions européennes et les relations avec les États membres. Parce que sur d'autres sujets, on a vu que les États membres n'aiment pas beaucoup quand la Commission européenne dit certaines choses.
Bah, c'est notre machinerie institutionnelle où chacun joue son rôle, non ? Donc, c'est pas des dysfonctionnements. Enfin, donc, non, c'est...
Ben si, parce que comme vous dites, ce serait mieux de se mettre d'accord avant et puis ensuite de vous laisser négocier et de se taire.
Ce
serait un meilleur fonctionnement.
C'est ce que j'ai dit, oui.
Face aux Chinois, vous avez vraiment le sentiment que ces divisions européennes, notamment sur les taxes anti-dumping, là, sur les panneaux solaires, ont affaibli votre position pour négocier. Vous le sentez ? Ou pas ?
Moi, je vais négocier avec les Chinois et je le ferai dans le cadre que je me suis fixé. Et je pense que ça renforcerait encore la position européenne si les États membres ne feraient pas. Certains États membres s'étaient plus tôt.
Et vous avez votre objet. Pardon, combien de temps ? Vous avez dit il faut vous laisser le temps, c'est-à-dire jusqu'à...
Ben, il y a eu une décision provisoire maintenant, comme vous venez de le dire. Donc, il y a maintenant une première période de 2 mois avec une imposition très limitée, à peu près 12%, et puis ça monte à 47%. Donc, on a du temps jusqu'ici, enfin d'ici jusqu'à la fin de l'année. Mais je pense que c'est dans l'avantage des deux parties que donc chinoise et européenne, d'arriver à un accord aussi vite que possible.
Quel est l'objectif pour vous dans ces négociations sur les panneaux solaires, pour prendre que cet exemple? C'est que le prix des panneaux solaires en provenance de Chine remonte, qu'on arrête les subventions en faveur de ces panneaux solaires quand on les produit en Chine, c'est ça? Quel est votre objectif concrètement?
Mon objectif est de créer un environnement économique qui rend possible que des panneaux solaires soient produits en Europe. Mmh. Ça, c'est le but. Et ça ne doit pas forcément impliquer que le prix des panneaux solaires monte. Parce que, enfin, ça, c'est l'idée. Hein. Donc, on protège, mais enfin, finalement, on va payer plus cher. C'est pas forcément vrai.
Alors, entre la Chine et l'Union européenne, lequel des deux est le plus protectionniste? Qui protège plus ses produits et son industrie? Est-ce que c'est les Chinois ou est-ce que c'est les Européens? Est-ce que, autrement dit, est-ce que parfois un peu de protectionnisme, c'est utile?
Ouais. Je pense que la Chine protège plus son marché que l'Europe, mais ça c'est aussi compréhensible parce que nous sommes dans une phase différente de développement. Donc, je pense qu'il faut vivre avec une certaine asymétrie. Ce qui, d'après moi, est tout à fait inacceptable, c'est que nous accepterions qu'il y ait des dumpings, qu'il y ait donc vraiment donc un jeu où les Chinois peuvent n'importe quoi. Peut faire n'importe quoi sur notre marché, ça c'est pas acceptable.
On a parfois l'impression que c'est le cas, qu'il y a une concurrence déloyale avec des travailleurs qui sont moins bien payés, c'est un dumping social, avec une pollution en général assez importante en Chine, on sait les dégâts que fait l'industrie chinoise sur la nature, donc là il y a un dumping environnemental. Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer tout ça? Est-ce qu'il faut laisser du temps?
Mais ça c'est un discours très très dangereux, parce que là on tombe très vite dans le protectionnisme. Hein. Donc, si vraiment les Chinois devraient produire sur base des mêmes salaires que nous, alors il n'y aurait jamais un pays qui puisse se développer. Donc ça, c'est pas mon langage. Mm-hmm. Mais ce que je n'accepte pas, qu'il y ait du dumping sur nos marchés, sur base de financement bon marché, sur base de surproduction. Ça, j'accepte pas. Mais qu'il y ait une compétition et qu'il y ait même une certaine asymétrie, ça, c'est la vie. Hein.
Mais l'asymétrie, avec le temps, va se réduire, forcément.
Automatiquement, mais sans asymétrie, il n'y aurait pas de développement de nouveaux marchés pour nos produits non plus. Hein. Donc, mais autre chose, c'est d'accepter qu'il y ait vraiment donc un dumping de leurs produits à n'importe quel prix, un prix auquel ils ne savent pas produire eux-mêmes. Hein. Donc, ils vendent à un prix inférieur à leur coût de production. Ça, c'est dumping. Ça, c'est la définition du dumping. Et là, ça, je trouve que c'est pas acceptable. Mais je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions qui ne doivent pas forcément faire monter le prix des panneaux.
Parce que comment on fait pour équilibrer le commerce entre la Chine et l'Union européenne? Le déficit commercial de l'Union européenne est très important vis-à-vis de la Chine. Je crois que c'est plus ou moins 120 milliards par an.
C'est un tiers, deux tiers.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer d'exporter plus chez eux ou d'importer moins de chez eux? Ou bien c'est pas grave, peut-être que c'est pas grave qu'il y ait un déséquilibre.
Il y a pas mal ça c'est un débat beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a pas mal d'importations chinoises qui nous aident dans nos exportations. Hein, donc, et puis il faut aussi voir ce que l'on importe, quelle est donc la valeur ajoutée des importations. Il est vrai que donc il faudrait rendre plus petit le déficit commercial de l'Europe, hein. Mm-hmm. Surtout en exportant plus, je pense. D'accord. Surtout en exportant plus, et pour cela, il faut que les Chinois progressivement ouvrent leur marché. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on veut obtenir dans nos négociations sur un accord sur les investissements, qu'ils ouvrent donc leur marché aux investissements européens. Mais c'est une évolution, donc ça peut pas venir du jour au lendemain. Toutefois, il faut être clair quelle est la direction du vecteur.
Il nous reste moins d'une minute avant la fin de l'émission. Peut-être une question sur la Turquie, Philippe Ricard.
Oui, comment réagissez-vous à ce qui s'est encore passé ce week-end en Turquie, c'est-à-dire les émeutes, une répression? Est-ce que pour vous, la Turquie a sa place dans l'Union européenne telle qu'elle se présente à ce jour ou pas? Est-ce que ça va geler les négociations d'adhésion ou pas?
Ça m'inquiète, ce qui se passe en Turquie. Et je suis tout à fait prêt à en débattre plus en profondeur, mais pas en 30 secondes.
Ouais. Mmh. D'accord. Ça vous inquiète sous quel angle? C'est-à-dire que.
Oui, mais enfin.
Elle a sa place.
Oui, c'est un vaste sujet, enfin. Oui, donc, bien sûr. C'est un grand partenaire, c'est aussi un grand partenaire commercial. C'est un pays qui est candidat à devenir membre de l'Union européenne, donc je ne vais pas répondre à une telle question en 30 secondes. Enfin, donc,
non, mais simplement, est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment, ça va compliquer encore les choses, ou bien c'est simplement une parenthèse dans l'évolution on a parlé de mai 68 en Turquie. Voilà, est-ce que pour vous, à terme, la Turquie, pour poser la question autrement, a sa place dans l'Union européenne?
Il faut évaluer l'évolution de la Turquie. Et on ne peut pas le faire seulement sur base des émeutes, mais il est clair que ces émeutes, ce sont des faits.
Des émeutes et la manière dont les autorités ont réagi aussi. Oui.